coup, les méfaits de la malbouffe. Donc, c'est une recension du livre Big Food. Et du coup, c'est une recension par Martin Bourré-Guelin. Grâce aux stratégies commerciales et au lobbying des géants de l'agroalimentaire, les aliments ultra transformés se multiplient dans nos assiettes. La satiété éphémère qu'ils provoquent favorise le surpoids et des risques plus élevés de maladies cardiovasculaires et de diabète. L'irruption du Covid-19 en 2020 ferait presque oublier la part importante des maladies non transmissibles parmi les causes de mortalité dans le monde. Selon l'OCDE, affection cardiovasculaire et diabète étaient responsables d'une mort sur trois en 2019. Ah ouais! Ah non, du coup, c'est dans le monde, ça? Oh, c'est énorme. Martin Burger King. Putain, je vous déteste. Ces pathologies sont fortement corrélées avec la consommation d'aliments ultra transformés, AUT, que aucun qualifie de malbouffe. L'essai de la nutritionniste Mélissa Mialon dévoile les stratégies commerciales et les politiques des industries agroalimentaires qui, en dépit de meilleures connaissances, visent à maintenir, voire à accroître leur présence dans les assiettes, collations et autres grignotages. Et à mon avis, c'est la même logique que le tabac globalement. Hein. C'est comment la stratégie politique de lobbying, un peu comme le tabac, avec des fausses informations, on met en place tout ça. Et c'est pour ça que moi, quand je vous parle de mettre en place des cantines solidaires, mettre en place tout ce genre de projet, bah, c'est important. Et vous voyez, pour rebondir sur l'article qu'on vient de finir, où on parlait d'action militante, bah, s'il y a des gens qui sont un peu chefs cuistots, qui n'aiment pas leur boulot, je sais pas quoi, qui ont un projet dans le futur, voilà, pourquoi pas créer pour les fameux entrepreneurs, les macronistes, la Startup Nation, MDR, voilà, mais en vrai, bah, proposer ce genre de projet de cantine solidaire, de comment mettre en place justement des fast-foods accessibles à tous et de manière avec de la bonne qualité. Et pour ceux qui veulent parler de ça, il y a l'après-M à Marseille qui justement a fait ça et qui là en fait sont passés en mode fast-food, employés des gens et compagnie. Et en fait, ils font de la fast-food de bonne qualité avec des bons aliments. Et du coup, ça permet de nourrir la population, d'employer les gens de Marseille, donc du quartier, et de réinsérer les gens. Donc vraiment, voilà, allez voir les couleurs des trans, incroyable. Donc voilà, allez voir l'après-M. Et donc voilà, si vous avez ce genre de projet, des initiatives comme ça, bah, essayez de mettre en avant ce genre de choses, c'est important de penser à tout ça. Et si vous avez un peu, vous êtes un peu en errance, vous savez pas trop quoi faire de votre vie, bah, ça peut être ce genre d'alternative peut être une bonne étape, quoi. L'après-M avec la transition. Mais oui, en vrai, très très belle couleur. Hein. Les couleurs de la transition, c'est incroyable. Bref, allez, on continue du coup. La dénonciation des industries agroalimentaires positionne M. Mialon en héritière directe de M. Nestlé. Monsieur Mialon et Monsieur Nestlé, je suppose, sans lien avec la multinationale suisse qui, il y a une vingtaine d'années, publiait Food Politics, leur texte, des enquêtes sur la pression qu'exercent les géants de l'agro-industriel sur les politiques publiques aux États-Unis. Voilà, ça me paraît tellement évident, en fait, ça, malheureusement. L'obésité, les pathologies cardiaques et les cancers sont depuis une génération dans le viseur des responsables de la santé publique. Pour expliquer les liens entre alimentation et santé, Nestlé manie un modèle qui décompose l'aliment en nutriments, calories, glucides, lipides et protéines. Mialon, au contraire, construit un argumentaire sur une nouvelle typologie des aliments qui les trie en fonction de leur degré de transformation. Ah, oh, c'est en vrai, ça, c'est grave intéressant. Quel est le problème? Est-ce que c'est les... Ah, c'est hyper intéressant. Est-ce que c'est les nutriments qui posent le plus problème, ou est-ce que c'est la transformation, ou est-ce que c'est les deux? J'espère que ça va un peu nous... J'espère qu'on aura des réponses après la lecture. Ces classifications servent de base à des recommandations alimentaires. La catégorisation fondée sur des critères nutritionnels donne lieu au conseil de réduire la consommation de matières grasses, de sucre, de sel et d'alcool. Cette conception inspire le pictogramme de Nutri-Score. Ah, donc ça, vous connaissez de A à F, je crois. Le critère technologique de la transformation, qui n'est pas incompatible avec la première taxonomie, débouche sur la préconisation de diminuer la place des plats industriellement préparés et prêts à cuisiner ou à réchauffer dans notre alimentation et d'y renforcer celle des produits peu ou pas transformés. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai eu des soucis de santé, du coup j'ai complètement arrêté tous les produits transformés. Je ne mange que des produits que je transforme moi-même. En fait, je l'ai senti quasiment le mois d'après, quoi. Je sentais déjà l'impact sur ma santé, où j'avais moins de coups de fatigue, je me sentais mieux, moins lourd, etc. Donc, mine de rien, si vous avez des petits soucis de santé, etc., je vous conseille de... Enfin, en tout cas, ça peut être une bonne première étape de tester ce genre de choses. Bien sûr, après avoir vu un médecin, ou en tout cas aller voir un médecin, évidemment, mais si votre médecin, ça donne pas forcément de solution, bah, opter pour ce genre de choses, ça peut être une bonne piste, quoi. Ouais, ça, des aliments frais, ouais. Dans les deux cas, ces repères de consommation ont de quoi heurter les intérêts du secteur agroalimentaire. On comprend aisément que les poids lourds comme Danone, PepsiCo ou encore Philip Morris, dont une branche alimentaire, achetée en 1970, se sert des stratégies d'influence mises au point par la filiale de tabac. Ah putain, ok. S'oppose à ces mesures réglementaires telles que la fixation de limites des taux de sel, de sucre et de gras dans les aliments industriels, la taxation des produits ciblés, les sodas, ou l'encadrement accru des publicités. Ah d'accord, putain, je savais pas qu'il y avait un. Je savais pas que Philip Morris, ils avaient un bail alimentaire. J'ai arrêté la viande, moi, ça va beaucoup mieux. Après, voilà, ça peut être. La viande, moi, c'est vrai que c'était les produits transformés. Enfin, je dis ça, je sais pas si c'était ça, mais en tout cas, vraiment, ça me flinguait. Enfin, je mangeais trop de produits en fait trop transformés et ça me rendait fatigué quoi, ça me fatiguait et ça m'épuisait. Je puis soit faire certains plats vous-même en consommant des trucs, c'est mieux et ça ne prend pas forcément trop de temps à faire. Voilà. Après, bien sûr, le discours, attention, hein, je ne veux pas mépriser que ça. Les gens qui n'ont pas la possibilité, ce n'est pas, enfin, voilà, ce n'est pas votre faute. Si vous pouvez, faites-le. Si vous ne pouvez pas, c'est pas vous les coupables, évidemment. Ça, vraiment, c'est, je suis pas là pour jeter la pierre sur les gens qui consomment comme ça. Enfin, vous faites ce que vous voulez et c'est pas à moi de juger ça, quoi. Un changement paradigmatique, l'aliment ultra transformé. L'intérêt scientifique pour les aliments ultra transformés remonte aux années 2000. Une équipe de chercheurs autour de CA Monteiro constate que la baisse d'achat de sucre et de graisse n'aurait pas une incidence croissante d'obésité au Brésil. Dans le même temps, la présence d'un pot de sucre dans un mélange était corrélée à l'absence d'obésité parmi les membres, alors que son absence renvoyait à la présence de personnes en surpoids. Ok. L'observation contre-intuitive reflétait en fait la pratique culinaire familiale. Le sucre signalait une cuisine aux ingrédients traditionnels bruts, riz, légumes et légumineuses, alors que son omission indiquait le recours aux plats industriellement préparés. Ok, putain, c'est précis ça. C'est ultra précis. En gros, c'est pas parce qu'il y a moins de sucre utilisé que tu ne consommes forcément moins de sucre. Depuis, ce résultat empirique surprenant stimule des recherches sur le lien entre aliments transformés et la santé. Jeter la pierre, non, avertir des risques quand la bouffe achetée est toute prête pour que chacun puisse choisir ou non de s'intéresser aux additifs pour faire changer les habitudes de consommation. Oui, voilà exactement ça, Vidou. C'est ça, on est là pour avertir, pour essayer de comprendre, etc. Mais on n'est pas là pour juger, quoi, tout le temps. Vraiment, ça, c'est la ligne de la chaîne, c'est ça, quoi. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, Nonem. En vrai, c'est intéressant, ce genre de réflexion. Les chercheurs ont ainsi élaboré une classification appelée NOVA, 9 en portugais, qui ordonne les aliments en fonction de leur degré d'altération via des procédés chimiques et industriels. Okay, je ne connaissais pas ça. L'ultra-transformation implique la dissolution de la structure complexe des aliments, ajout d'auxiliaires technologiques pour faciliter les méthodes d'industriel, l'utilisation de produits hautement raffinés, tels les huiles ou les sirops de glucose, pour leur reconstitution et, finalement, l'introduction d'additifs sensoriels, colorants, exhausteurs de goût, émulsifiants, épaississants, etc., pour leur restituer des caractéristiques appétissantes. En gros, c'est vraiment, vous prenez un produit et vous le modifiez complètement, quoi. En fait, en ressorti, le produit n'est pas du tout le même. Et par contre, dans la production, vous avez ajouté plein de produits chimiques qui auraient pu être évités. L'effet de ces maintiens, de ces maniements, pardon, est hyper palatabilité. Quoi? Et l'hyperpalatabilité, je ne sais pas ce que c'est, des aliments dont la consommation et la digestion s'avèrent extrêmement rapides. Résultat, satiété éphémère et envie de manger davantage avec le surpoids à la clé. Ok, je ne sais pas ça. Et tout indique leur lien étroit avec la maladie de civilisation, telle que le diabète, l'hypertension et, selon une étude française, un risque accru de développer un cancer. Plein de produits ont un Nutri-Score A auraient un Nova-Score F. Ça serait intéressant de voir ça. Oui, exactement, Siromatique, c'est exactement ça. Mais un légume peut être transformé sans être intrinsèquement dangereux. Évidemment, non, bien sûr. La problématique n'est pas la transformation. Par exemple, vous achetez de la purée bio sans transformation, il n'y a aucun problème. Enfin, sans ajout, il n'y a aucun problème. C'est juste que la purée est transformée et c'est juste que c'est tout prêt, tu vois. Par contre, si vous achetez une purée avec plein d'additifs, plein d'ajouts de sel, plein d'ajouts de colorants et compagnie, là, il y a un vrai impact. Donc, ouais, oui, évidemment. La palatabilité, appelée aussi valeur hédonique, est le caractéristique du goût et de la texture des aliments agréables au palais. Ok, bah, je ne savais pas. Ah oui, d'accord, palabilité, palais. Bien vu, merci. Merci Cyril. Les déterminants commerciaux de la santé. Scandalisé par les pratiques commerciales et politiques des industries agroalimentaires, M. Mialon ambitionne par ses travaux de les réformer. Son exposé condamne non seulement la formulation de produits dont la consommation, jouant sur l'assouvissement immédiat du goût humain pour le sucré, le salé et le gras, est délétère à long terme et dont le financement pourrait servir à d'autres voies de recherche et de développement. Ça, je suis 100% d'accord. Vraiment, mettre en place de la recherche pour justement rendre des aliments peu transformés ou avec peu d'ajouts bons et agréables à manger au lieu de faire juste des produits sucrés pour vendre mieux, quoi. Il présente aussi les dessous de l'architecture de l'offre dans les supermarchés, les ruses de marketing, l'agencement d'alliances civiques et les lacunes du lobbying politique proprement dit. La force du livre réside moins dans les parties individuelles, souvent connues, aussi grâce aux travaux académiques de Mialon, que dans leur entrelacement qui montre la cohérence des stratégies des entreprises, de leurs filières et de leurs regroupements fêtiers. Les dispositifs commerciaux jouent depuis toujours sur la mobilisation sensorielle, lumière, goût, odeur, et dans les supermarchés, sur l'attrait des marques pour séduire le chaland. Donc en gros, ça, c'est pareil, hein, maintenant, il y a carrément des neuros, il y a une logique commerciale en mode neurodéveloppement, je sais pas quoi, pour réussir à comprendre comment le cerveau fonctionne et comment, du coup, on peut amener le fonctionnement du cerveau pour attirer l'achat de produits spécifiques. Ça existe depuis longtemps, hein, mais c'est faut le savoir, quoi. Mialon mentionne l'étape suivante, le neuromarketing. Ah bah voilà. Celui-ci exploite les scans du cerveau censés enregistrer les plaisirs gustatifs pour inciter la consommation de produits ultra transformés. L'argument se regorgeant grâce à la prouesse scientifique, mais portée aux cartographies numériques des sphères cérébrales, la preuve que la consommation crème glacée, par exemple, rend à coup sûr heureux. Voilà. Et ça, par contre, c'est le vrai danger, parce que du coup, ça met en avant des produits qui sont utilisés de manière trop grande quantité, sont dangereux, quoi. Un autre vecteur de promotion que Mialon déplore consiste dans le placement de produits à la télévision, dans les films ou les réseaux sociaux, parce qu'il cible singulièrement les enfants. Aux États-Unis, les enfants ont des minorités noires et hispaniques, friand de ces nourritures industrielles en portions faciles à manier. Alors ça, c'est bien qu'il précise là le côté raciste des trucs. Alors je sais pas en France si c'est vraiment encore ça fonctionne comme ça ou pas, je crois pas, mais par contre pour tout ce côté marketing raciste, on peut penser, enfin pas forcément raciste, mais qui vise des minorités, on peut penser à tout ce qui est les trucs marketing avec les paris sportifs, avec tout l'accoutrement du quartier, enfin je dis l'accoutrement, tous les codes vestimentaires, pardon, l'accoutrement, désolé, tout le code vestimentaire des quartiers, tout les discours, les manières de parler, compagnie, quoi. Et ça, je sais pas vraiment si niveau alimentation, si en France ça a encore des impacts, enfin si il y a des impacts actuellement pour viser les minorités précises. Winamax, exactement, notamment Winamax. Ouais. C'est bien accoutrement. Bah accoutrement, ça fait un peu genre panoplie, tu vois, ça fait un peu déguisement, tu sais. Alors que, ouais, en vrai, je sais pas, je m'en rends pas. Enfin moi, donc là, quand je dis accoutrement, je le perçois pas forcément de manière positive. Mais j'avoue, oui, c'est juste un habit, quoi. Ah, joke, pardon. Mais un capa. Mialon décèle, derrière les opérations philanthropiques, l'intérêt bien compris des industries agroalimentaires de soigner leur réputation. Si le mécénat artistique lui paraît comme un effort transparent pour se racheter une virginité morale lors de festivals de musique ou d'expositions temporaires, Mialon souligne leur duplicité lorsqu'elle propose des aliments transformés en même temps que des assortissements de produits amaigrissants, craft food. Des cours d'initiation au beau goût, comme la litière du sucre de... comme la filière du sucre en France, du sponsoring d'activités sportives sur l'île Maurice, Nestlé, ou du soutien de colonies de vacances avec des produits gratuits au logo Yodine, Yodouane, Ferrero. Ah ouais, ah mais c'est un enfer en fait. C'est vraiment l'enfer. Emma, son accoutrement à ce guignol, arrêtez. T'inquiète, y'a pas de soucis, mais n'hésite pas à mettre un kappa quand c'est une blague, parce que moi j'arrive pas à repérer. Ces animations pénètrent jusque dans l'enseignement primaire où elles interfèrent avec un espace en principe hors commerce. On pense notamment au lobby du lait. La distribution gratis dans les écoles de matériel didactique pour les leçons consacrées au bien manger agit sur les thématiques abordées et les angles d'approche privilégiés. Cet enseignement, qui a introduit des marques privées dans les enceintes scolaires, profite à la légitimité d'une institution publique. Clairement, alors ça, on est clairement d'accord. Et notamment hein, le lait. Hein. Le lait, il y a eu tout un lobbying du blé dans les écoles. Du lait dans les écoles. Les pratiques d'influence. En dernière instance, Mialon réplique l'enquête de Nestlé sur la pratique d'influence des entreprises agroalimentaires dans les sphères scientifiques et politiques. Leur répertoire stratégique est bien connu et commence par la batterie d'intervention pour contester le discours nutritionnel autorisé. Mise en doute de publications scientifiques qui entachent la réputation des aliments industriels, financement d'études académiques qui, au contraire, affirment l'innocuité de ces produits, soutien de conférences et d'organisations professionnelles de santé afin de définir des priorités de recherche plus favorables aux entreprises, lobbying auprès des législateurs et capture de comités préparant des lois, mise sur pied d'associations écrans, les faux-nés des industries alimentaires, souvent épinglés dans le canard enchaîné, qui divulguent les positions des industries au nom de l'incompatibilité de la régulation collective avec les souverainetés individuelles. Ça, c'est le classique des lobbying, de saper la recherche scientifique, etc. On l'a vu, hein, ça a fonctionné avec le tabac, ça a fonctionné avec le sucre, ça a fonctionné avec le pétrole. Bah, ça va aussi, enfin, ça va, en tout cas, avant que ça se fasse démanteler, ça risque aussi de fonctionner avec les produits transformés, quoi. Salut à toi, Raven. Ces activités reposent en partie sur les relations personnelles chercheurs cooptés, dont les comités scientifiques et des fondations d'entreprises bien connues, qui, à leur tour, organisent des journées d'études dont les thématiques tendent à occulter les aliments transformés, pourtant en pleine vue. Il y a aussi, pour cultiver la proximité de l'entre-soi, des banquets de galas et repas mondains auxquels sont conviés les politiciens. Ah ouais, on est d'accord, ça, on peut appeler ça de la corruption, non? Ou pas? Pour moi, ça, c'est de la corruption. Enfin, ouais, en vrai, pour moi, ça, c'est une forme de corruption, ça. Ou sur le registre contrapuntique, les attaques personnelles d'experts pour discréditer les idées en faveur d'une politique de santé publique qui mandaterait, en direction des consommateurs, une information plus transparente sur le contenu des aliments. Mais le lobbying prend une allure plus instituée lorsque les représentants de l'agroalimentaire arpentent les couloirs de l'Assemblée législative, prêtent main forte dans la rédaction de lois ou s'activent à empêcher l'adoption. Ah ouais, mais quelle dinguerie! Un truc de ouf. Merde, les trucs, ça marche pas. C'est quoi le petit 6? Ah merde, ça marche pas, les sources. C'est pas grave. C'est la corruption passive, sauf que la définition ressemble vachement à celle du lobbying. Oui, voilà, c'est ça, c'est la corruption, mais ça, c'est légal, quoi. Il le dit sans le dire, la corruption. Oui, c'est ça, c'est corruption sans être... Enfin, voilà, c'est montre que t'es corrompu sans le dire, quoi. L'indignation comme moteur de recherche. Big Food carbure sur l'indignation de son auteur devant les dommages de l'ultra-transformation des aliments, inflige aux consommateurs pauvres en général, aux pays en voie de développement en particulier, et à la terre tout court. Leur production est énergivore, leur emballage en plastique est un facteur important de la pollution et de l'environnement. Et c'est vrai que ça, je m'en rends pas compte. À mon avis, l'impact des populations pauvres là-dessus, parce que c'est vrai que les produits transformés, souvent, bah, c'est des produits que tu manges vite quand t'es au boulot, tu vois. Donc souvent, bah, c'est des personnes prolétaires, précaires, que tu achètes avec ton ticket resto. Et du coup, il y a aussi ce côté où bah, tu as l'impression de manger un bon produit. En fait, tu manges un aliment qui est full, qui t'apporte vraiment de la mauvaise santé, quoi. Ils arrivent toujours à détourner, par exemple, pour soumettre des textes de loi, les lobbies filent des iPads et autres comme support et des contenus dedans, ça passe. Oh, vas-y, mais la dinguerie, c'est la dinguerie! Oui, bien sûr, le site, c'est La Vie des Idées. C'est un site qui évoque plein de thèmes, donc voilà. N'hésitez pas à fouiller. L'engagement éthique de Mialon est rafraîchissant. La vulgarisation vient cependant avec un coup. Le livre propose ainsi des exemples de presque tous les continents, prouvant une fois de plus l'existence de coffres bien garnis des industries agroalimentaires et illustrant les multiples modes de leur intention. Et ça, vraiment, ça, il faut garder en tête, les gens, c'est que les multinationales agissent partout dans le monde. Et du coup, elles arrivent à appliquer leurs méthodes partout dans le monde, et notamment dans les pays du Sud. Pas que, hein, mais... c'est un grand classique aussi, le lobbying, de monter les groupes pour écrire des projets de loi et glisser des députés clés en main. Bien sûr, bien sûr. Le canard enchaîné avait épinglé l'ancien trésorier de l'UMP, Daniel Fasquelle, là-dessus. Il a repris un texte de l'agro-industrie, mot pour mot. Oh, c'est un truc de ouf, hein. La lecture de l'ouvrage pourrait être complétée avec celle de l'étude des sociologues et politologues Benna Muzig et Cortinas Munoz, intitulée « Des lobbies au menu », qui porte sur les lobbies de l'agroalimentaire en France, trois vecteurs d'intervention cognitifs dont l'enjeu est la légitimité scientifique, relationnel, qui négocie les liens personnels entre l'industrie, experts et politiciens, et symbolique, qui infecte les réputations de l'agroalimentaire et de ses adversaires, permettent à Benna Muzig et Cortinas Munoz de dresser les coordonnées des espaces d'intervention et leur synergie qui, elle, augmente l'efficacité des activités du secteur agro-industriel pour infléchir les politiques sanitaires et commerciales. Finalement, le diagnostic du mal qui ronge les politiques publiques de santé appelle des remèdes. Mialon espère que les travaux académiques finiront par encourager l'adoption de lois qui imposent une transparence accrue des activités de lobbying, voire interdisent certaines de ces pratiques. Et moi, surtout, là où je trouve que c'est pas normal, c'est en fait, il faut aussi que les municipalités prennent en main des cantines pour les travailleurs, en fait. Ça devrait être un devoir de la municipalité de fournir des cantines. Alors, ça doit sûrement exister déjà, mais en plus grande quantité, de fournir alors, soit des plats préparés. En gros, voilà, créer un système de plats préparés national, en fait. Tu crées un système de plats préparés national qui devrait rentrer dans la logique de sécurité alimentaire et l'alimentation, qui permettrait aux travailleurs de pouvoir bien se nourrir, d'avoir la charge mentale qui est libérée avec des propositions de plats proposés tous les jours, avec aussi des plats aussi cachers et vegan et sans porc pour musulmans, juifs et vegan et compagnie. Alors voilà, c'est des choses qu'il faut penser, qu'il faut mettre en place, et ça politiquement, bah, c'est ultra intéressant, tu vois, de mettre en place un espèce de Uber national qui fournit des plats préparés aux travailleurs qui ont été faits dans des bonnes conditions avec des cuisiniers, etc. Et là, tu peux construire toute une logique de production locale, élevage local ou national, mais peu importe, hein, mais on va dire local, avec après les cuissons, avec le en gros, voilà, circulaire, quoi. Le côté local de la cuisson, après, hop, le côté local des cuisiniers et le côté local de ça touche les travailleurs dans les usines quotidiennes, quoi. Et ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place, qu'il faut proposer, et c'est aussi le boulot des c'est vraiment le boulot des municipalités, quoi. Bam, c'est le CM de la vie. Mais non, mais moi ça me rend fou, en fait, c'est qu'il y a tellement des trucs simples à mettre en place, c'est pas simple, mais il y a tellement plein d'idées qui seraient faciles à réfléchir et faciles à commencer à construire. Ça rend fou, quoi. C'est désolé, mais c'est aussi le travail et le devoir de la municipalité de fournir ce genre de services, quoi. C'est des services qui devraient être intégrés pour les travailleurs. Compte tenu du contenu du livre, oui, c'est bien la phrase. C'est optimiste et admirable. Cependant, une vraie inflexion des politiques publiques requiert une modification du registre qui aide à interpréter les origines des maladies chroniques. Seules des mobilisations collectives, on pense à la récente élection d'un président progressiste au Chili, produiront le sursaut politique nécessaire à la reconnaissance de ces affections, que ces affections soient un défi sociétal dont le coût à la longue n'est pas compensé par les emplois ou les chiffres d'affaires dans l'agroalimentaire. Ouais, voilà, c'est ça, je suis d'accord. Plutôt que d'insister sur la responsabilité individuelle des consommateurs, ce nouveau cap visera à réformer l'environnement alimentaire qui favorise les préjudices sanitaires et environnementaux. Car si les couches sociales aisées peuvent renoncer aux achats d'aliments transformés en s'offrant une alimentation plus saine, mais aussi plus chère, ces solutions n'existent guère pour les classes défavorisées au regard des produits qui leur sont accessibles dans les supermarchés et du temps et des moyens dont elles disposent pour cuisiner. Exactement, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut mettre en place un service de production de plats préparés pour